Strasbourg pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec Cécile-Ange. Monsieur Boris Cyrulnik, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir pour parler de ce nouveau livre que vous venez de faire paraître aux éditions Edith Jacob, dont le titre est « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché ». Vous êtes neuropsychiatre, auteur de nombreux ouvrages. Alors, je cite « Sauve-toi, la vie t'appelle, la nuit j'écrirai des soleils, des âmes et des saisons ». Le laboureur et les mangeurs de vent, 40 voleurs en carence affective, ce sont tous des best-sellers mondiaux. Et là, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Donc, le titre, c'est « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché ». Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce titre que l'on devine, mais « Tomber amoureux et se relever ». Alors, donc, il y a quand même une cinétique, c'est pas tomber amoureux pour la vie, il y a une transformation, une sorte de, on tombe amoureux, on est cuit. Est-ce qu'on est cuit pour la vie ou est-ce que c'est éphémère, mais on garde cette trace, cette empreinte jusqu'au dernier jour?
Eh bien les deux, voilà, c'est pour ça que quand on tombe amoureux, on a effectivement une empreinte qui nous permet de nous relever attaché. Donc c'est deux forces opposées et associées, ce qui est fréquent en psychologie. Quand vous mettez une planche pour qu'elle tienne debout, si elle est toute seule, elle tombe. Mais si vous mettez deux planches opposées face à face, elles forment un toit qui tient toute la vie. Donc ça veut dire que l'attachement de la naissance à la mort est constant, alors que l'amour est un moment passionnant, intense, parfois angoissant, qui a pour fonction de prendre l'empreinte de celui, celle avec qui on va rêver de vivre, et là on tisse, on ne tombe pas attaché, on tisse un lien qui va durer pendant les 120 ans d'existence auxquels on a droit.
Alors, quand on tombe amoureux, il y a un sentiment d'extase, et vous analysez de façon frappante ce mot « ex » et plus loin une « stase », c'est-à-dire on est exporté, on est téléporté, on est hors de nous, hors du monde, dans une atmosphère tout à fait spéciale. C'est le coup de foudre foudroyé.
Voilà, c'est ça. C'est elle. Je la reconnais, j'éprouve pour elle un étonnant sentiment de familiarité, je veux être près d'elle, la regarder, la toucher, c'est pas forcément associé à la sexualité, je veux être près d'elle, c'est tout. Alors, c'est un élan, c'est un mot français que les Anglais utilisent beaucoup, c'est une élation, un élan vers la transcendance. C'est pour ça que l'amour de Dieu est aussi une forme d'amour intense. La révélation divine est un moment intense qui n'a rien à voir avec la sexualité. C'est-à-dire que c'est un moment intense qui nous rend hypersensibles à l'autre. L'autre, je l'apprends par cœur, ce qui me permet de tisser le lien de l'attachement, qui est plus insidieux, qui est moins conscient, qui est plus quotidien, mais qui nous sécurise et nous stimule toute notre vie.
Alors, l'attachement, c'est par rapport à l'amour, lorsqu'on éprouve un amour fou, on s'abdique, on se déserte, on se voue à l'autre, on perd son identité quelque part. Ce qui compte, c'est l'autre qui remplit le monde, et il y a une sorte de désertion de soi vers l'entité de l'autre, une sorte de sacrifice, ni douloureux, mais tout simplement, c'est un choix. L'essentiel, c'est de le conquérir l'autre et devenir l'autre. Voilà, donc c'est une révolution finalement, parce que c'est le seul être qui compte. Le monde de celui qui tombe amoureux n'est plus le même, ni les préceptes de la famille ou de la société, rien ne compte plus a priori, et même nos lois personnelles à nous sont piétinées, puisque ce qui compte, c'est l'autre, le conquérir, rester avec lui.
Eh bien voilà, Madame Choufana, je me sens compris. Parce que effectivement, Roméo et Juliette tombent amoureux et ça n'a aucune importance de savoir que les Montaigu et les Capulet se haïssent et vont se faire la guerre. Quand on tombe amoureux, seul compte l'autre, celui, celle avec lequel je veux me fusionner. Je suis capturé par l'amour, donc je me désocialise, c'est un moment merveilleux. Mais c'est aussi une dépersonnalisation, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est elle, c'est lui. Je suis plein d'elle, je suis rempli par sa simple présence. Mais cette plénitude me permet de l'apprendre par cœur, d'être hypersensible à elle, et c'est pour ça que ça tisse le premier nœud du lien d'attachement, c'est que je suis le seul à savoir que quand elle sourit sans bouger, c'est qu'elle s'ennuie. Les autres croient qu'elle sourit, moi je sais qu'elle s'ennuie. Donc je suis hypersensible au moindre signal de son corps, parce que je l'ai appris par cœur. Et là, je peux commencer à tisser le lien d'attachement qui est au contraire socialisateur. Si en sa présence et grâce à elle, grâce à lui, je me sens en confiance avec elle, donc j'ai confiance en lui et en moi, et je peux la quitter un peu pour aller travailler pour une heure, une journée. Je la garde dans ma mémoire, je la garde dans mon cœur, je continue à l'aimer alors qu'elle n'est pas là. Alors que dans l'amour, il faut qu'elle soit là, il faut que je sois près d'elle. L'amour est désocialisateur, mais facilite l'empreinte de l'autre, alors que l'attachement est socialisateur, parce qu'en me donnant confiance en moi, l'autre attaché me permet de tenter l'aventure sociale.
Alors, l'attachement, c'est une sorte d'apprentissage de l'autre. On se l'approprie par sa présence. Et on peut aussi remarquer que le surgissement d'un amour peut affadir un lien tissé de longue date avec l'autre.
Alors voilà, c'est pour ça que l'intensité amoureuse est un moment d'extase, comme vous l'avez rappelé, c'est un moment d'extase, mais ça peut être aussi un moment d'angoisse. L'intensité émotionnelle peut déclencher des angoisses, et surtout si j'ai tissé le lien d'attachement avec un premier couple, et boum, je tombe amoureux de quelqu'un que je connais pas, mais qui réveille en moi mes empreintes, ça va poser en même temps un problème merveilleux, je suis amoureux de l'autre, et un problème difficile, c'est qu'on voit, c'est ce qui se passe dans certaines aventures extra-conjugales qui déchirent le premier couple pour tenter de faire un deuxième couple. C'est extatique, mais c'est pas toujours facile.
Alors, on remarque aussi qu'après la guerre, il y a beaucoup de divorces, parce que celui qui a fait la guerre a connu des univers différents, le danger, des émotions exacerbées, et puis que l'autre a vécu dans un autre espace, dans un autre contexte, et les retrouvailles ne sont plus homogènes. Les deux membres de ce couple ont traversé des univers différents et ils ne sont plus miscibles.
Et voilà, le lien d'attachement a été déchiré par la guerre. C'est-à-dire que la guerre est une fabrique de psychopathes pendant plusieurs générations. Pratiquement tous les hommes qui rentrent de la guerre, que ce soit la guerre de 14, la guerre de 40, la guerre d'Algérie, pratiquement tous les hommes qui rentrent de la guerre ont un syndrome psychotraumatique plus ou moins grave. Ils se sont entretués. Ils ont été dans les tranchées. Pendant ce temps, leurs femmes ont fait tout marcher. Elles ont fait marcher les usines, elles ont fait marcher les fermes, elles ont éduqué les enfants, elles ont soigné, elles ont enseigné. Et quand les hommes rentrent difficiles à vivre parce qu'ils sont traumatisés, ils veulent reprendre leur place. Et les femmes admettent mal qu'on les renvoie aux casseroles alors qu'elles ont fait marcher la société. Mmh. Donc ça provoque des déchirures. Les hommes ne comprennent pas pourquoi il faudrait qu'ils laissent les femmes au travail dans la société. Ils veulent reprendre leur place et les femmes ne comprennent pas alors qu'elles découvrent à l'occasion de chaque guerre, les femmes découvrent qu'elles peuvent faire marcher la société. Et chaque guerre est suivie d'un pic de divorce, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième massacre après le massacre physique dans la guerre de 14-18 où toute une génération de jeunes hommes qui n'avaient pas le droit de voter ont été massacrés dans des conditions terrifiantes. Il y a eu un pic de divorce après la guerre de 40, il y a eu un autre pic de divorce et ça ajoute un deuxième malheur à un premier malheur.
Alors est-ce que l'on peut dire que l'amour est une folie? Mais alors dans ce cas, que révèle l'imagerie médicale en temps réel? Est-ce que ça se voit?
Alors l'amour est une folie merveilleuse. Hein. Winnicott, le grand pédiatre psychanalyste, disait que parler de la folie amoureuse des trois premiers mois des mères qui sont capturées, fascinées par le bébé auquel elles viennent de mettre au monde, elles sont fascinées et le bébé est fasciné par celle que plus tard il appellera maman. Et pour l'instant, c'est un objet sensoriel, le regard, les basses fréquences de la voix, l'odeur, la manipulation, qui fait qu'il reçoit l'empreinte de sa mère. Donc c'est une folie amoureuse nécessaire pour prendre, pour recevoir l'empreinte.
Pathologie ou folie, est-ce que ça se voit par l'imagerie médicale?
Alors, au moment où on est amoureux, qu'on soit un bébé amoureux de sa mère ou une mère amoureuse de son bébé, ou qu'on soit des adolescents ou des adultes, parce que les adultes aussi, même les âgés peuvent tomber amoureux, on voit que ce qu'on appelle le faisceau de la récompense passe au rouge. Alors le cerveau ne se colore pas en rouge, mais ça veut dire que les neurones travaillent, dégradent du glucose, ce qui dégage de l'énergie, que l'ordinateur traduit en couleur rouge si c'est intense, ou en couleur bleue si c'est pas intense, ou en gris si c'est éteint. Et ce qu'on voit, c'est que les neurones qui dégagent de la chaleur, parce qu'ils travaillent, sont les neurones du circuit de la récompense. Qu'on voit à la face inférieure du lobe préfrontal, on le voit sans difficulté, on le photographie sans difficulté, et ces faisceaux neuronaux passent sur un noyau qu'on appelle le noyau accumbens, qui stimule la sécrétion de dopamine, le neuromédiateur du plaisir de bouger, la sérotonine, le neuromédiateur du plaisir de parler, de rencontrer, l'endorphine, la morphine que sécrète notre corps, l'oxytocine, le plaisir d'aimer, le plaisir de s'attacher, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe amoureux, le faisceau de la récompense nous fait un véritable shoot de substances euphorisantes. Seul le faisceau de la récompense travaille et le faisceau de la punition, celui qui transporte les informations désagréables, les doutes, les méfiances, s'éteint complètement. Il est complètement éteint. Ça veut dire que quand on est amoureux, on ne perçoit de l'autre que les informations gratifiantes. Et on a beau dire à Roméo ou à Juliette, tu sais, c'est embêtant, vos familles vont entrer en conflit, ça n'a aucune importance, ça n'éveille rien pour eux. Ils sont amoureux, ils ne perçoivent que ce qui est gratifiant. C'est vrai pour Roméo et Juliette, c'est vrai pour chacun d'entre nous.
Alors, si on peut aussi retourner l'idée, le concept, lorsque l'on est amoureux, on a dit qu'il y a une sorte de déperdition de personnalité, on rejoint l'autre, on aime l'autre plus que soi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, du moment où il y a que cette idée de possession de l'autre, de vouloir le posséder, est-ce qu'il, au niveau de la jalousie, on ne le regarde plus avec le même, sous le même regard, on ne pose plus sur lui le même regard, et on essaye de trouver des preuves de fidélité ou d'infidélité. Il y a, ce n'est plus l'amour uniquement chaud qui entoure Rose, mais une espèce d'attention exacerbée qui devient pathologique pour certains.
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment amoureux, je suis plein d'elle. J'ai un sentiment, j'ai une plénitude narcissique. Je ne m'intéresse qu'au sentiment intense au fond de moi. Mais ce sentiment, c'est elle, c'est lui, c'est l'autre qui l'a provoqué. Donc j'ai une sorte de plénitude merveilleuse. Et tout dépend comment, dans mon enfance, avant de tomber amoureux, j'ai acquis un lien d'attachement. Si j'ai acquis un lien d'attachement qui me socialise, l'attachement sécure, j'ai un élan vers les autres, je ne suis pas possessif. Je l'aime parce qu'elle m'aime, parce qu'on s'aime, comme disent les amoureux. On est bien ensemble, je ne la possède pas, je ne suis pas possédé. Et l'attachement, au contraire, permet de la quitter. Je peux partir travailler, j'ai tellement confiance en elle, elle m'a tellement donné confiance en moi qu'elle reste dans ma mémoire et dans mon cœur, même si je suis loin d'elle, ce qui n'est pas le cas du moment amoureux où j'ai besoin d'être tout le temps près d'elle pour en recevoir l'empreinte. Et si j'ai acquis un attachement ambivalent au cours de mon enfance, je ne suis pas sûr d'aimer, il m'arrive d'agresser ce que j'aime, ça m'arrive, c'est l'attachement ambivalent. Quand je tombe amoureux à mon adolescence ou plus tard, ça réveille, j'ai peur qu'elle me quitte. Ou si, si elle m'aime, c'est qu'elle va me tromper, si elle va me quitter. Donc ça déclenche une angoisse en moi, où je m'accroche à elle, je veux la posséder pour être bien. Et si elle s'intéresse, si elle parle à quelqu'un d'autre, c'est sûrement qu'elle va me quitter. Et dans ce cas-là, la jalousie apparaît, le désespoir apparaît et l'amour devient angoissant.
Alors il y a le mariage. Pourquoi a-t-on inventé le mariage, qui étude des mariages arrangés pour agrandir le clan familial, pour l'enrichir. Certains donnent leur fille à marier pour avoir en quelque sorte le clan pour compléter leur propre clan par un autre clan pour agrandir leur parc d'habitation, de maison, s'enrichir. Alors, et le mariage, c'est très paisible. Est-ce que ça comble un être humain passionné?
Alors, ça comble les rêves. Les femmes, les jeunes femmes ont été escroquées avec le plus beau jour de ma vie. C'est-à-dire que le mariage n'a pas de fonction affective, n'a pas de fonction amoureuse. Le mariage a une fonction sacrée, mettre au monde une âme pour adorer Dieu, et une fonction sociale, mettre au monde un garçon, de préférence à une fille, pour faire la guerre et pour travailler 15 heures par jour au fond des mines sans se plaindre. Un homme ne se plaint pas. Donc le mariage n'a pas de fonction amoureuse. Mais puisque les femmes sont données en mariage. C'est la phrase de Lévi-Strauss. Elles ont une fonction essentiellement sacrée et sociale. Pas de sexe, pas d'affectivité, sacrée, sociale. Et ça existe encore, bien sûr, quand je travaille souvent au Proche-Orient, j'entends des gens qui sont en grande difficulté de guerre actuellement, et j'entends des gens me dire, on est sûr de gagner la guerre, parce que nos femmes mettent au monde 7 enfants par femme, alors que vous, en Occident, vous mettez au monde 1,6, 1,5 enfants par femme, donc forcément, vous perdrez la guerre. Donc j'entends ces arguments, et c'est des arguments qui avaient une fonction technique. Par exemple, les aristocrates donnaient leur fille en mariage au fils de l'aristocrate voisin pour associer deux armées, de façon à attaquer une troisième armée et voler les terres du troisième aristocrate. Les paysans donnaient leur fille au fils du paysan voisin parce que pour la moisson, il fallait travailler au moins 12 heures par jour, et sinon, parce qu'il y avait le risque qu'il pleuve sur les grains, et s'il pleuvait, on ne mangeait pas de pain pendant tout l'hiver suivant. Les aristocrates aristocrates. Ensuite, au XIXe siècle, les aristocrates du portefeuille ont marié, donné leur fille en mariage pour qu'ils éprouvent un beau parti de façon à associer les entreprises et être encore plus riches. Donc on voit que le mariage a été inventé pour des raisons de guerre et pour des raisons sociales et sacrées. Or, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui où les jeunes gens veulent se rencontrer de personne à personne.
L'amour est aussi une question de langage. On dit parler d'amour, déclarer son amour, dire des mots doux. On peut comparer ça à la pensée? On ne peut pas penser sans mots, le mot étant le véhicule de la pensée humaine.
On peut comprendre sans mots, comme le font les mathématiciens, comme le font les bébés préverbaux, ils comprennent beaucoup de choses, comme le font les animaux, les mammifères supérieurs ou même les oiseaux. On peut comprendre beaucoup de choses, on peut comprendre qu'on va être attaqué, on peut comprendre qu'il faut chercher la nourriture dans cette direction et pas dans celle-là. On peut comprendre des tas de choses avant la parole, mais pour penser, il faut des mots. Et les mots découpent des segments de réalité qui sont parfois, qui collent à la réalité, qui désignent des segments de réalité, mais qui parfois ne désignent rien. Et dans ce cas, Freud disait « l'implicite des mots, c'est le délire ». C'est-à-dire que les mots peuvent nous couper de la réalité sensible, comme on le voit aujourd'hui dans les guerres, où toutes, absolument toutes les guerres, sont des guerres de croyants.
Alors il y a aussi... Oui. Il y a la... Pardon ?
Croyance... Ah, il y a un problème. Croyance métaphysique, croyance idéologique ou croyance économique. Il n'y a pas de rationalisation là-dedans, il n'y a pas de mathématiques. Donc les mots sont des merveilles qui créent la condition humaine, avec les machines d'ailleurs, ça crée la condition humaine, mais ça crée aussi l'horreur, c'est-à-dire qu'on peut très bien délirer sans être psychotique. Hein. Des gens, Freud disait, l'implicite du mot, c'est le délire. On peut délirer sans être psychotique, sans être névrotique, et c'est ce qui se passe dans toutes les guerres.
Alors, revenir à partir de ce que vous venez de dire, à la transe de la foule, le sentiment amoureux pour un dictateur, la contagion de l'émotion parmi tous les membres d'une foule, ça peut aussi être dans le monde religieux, mais aussi, prenons tout simplement exemple de ce qui s'est passé pour Hitler.
Mais oui. Ah ben, pour Hitler, c'était une religion profane, mais c'était une religion quand même, puisqu'il a cherché à utiliser le catholicisme pour renforcer les croyances en lui. Alors oui, Freud a été un des premiers, avec les sociologues du 19e siècle, à dire que l'amour qu'une foule amoureuse de son chef, c'était la même chose qu'un couple d'amoureux. Alors ça a beaucoup surpris. Or, la neuro-imagerie aujourd'hui confirme que Freud avait bien compris que c'est une extase. Tout ce que vous m'avez invité à dire à propos de l'amour entre deux personnes se vérifie entre l'amour d'une foule pour son chef. Et on voit que c'est ce qui explique le langage totalitaire. Dans les foules amoureuses, les foules ne sont pas amoureuses d'un homme qu'elles connaissent, elles sont amoureuses de l'idée qu'elles se font d'un homme. L'homme Hitler était médiocre. L'idée que les foules se faisaient était magnifique. Il va nous apporter 1000 ans de bonheur. Et le langage totalitaire, c'est-à-dire un langage qui explique tout, disait que, désigné, j'ai travaillé avec René Girard, qui explique que, dans le langage totalitaire, quand on est amoureux du chef, le chef, qui est un escroc culturel, désigne toujours les mêmes boucs émissaires. Sauf que dans la Bible, le bouc émissaire n'est pas mis à mort. Il est chargé des péchés de la cité, il est chassé dans le désert, il n'est pas tué. Alors que René Girard dit, dans la société, le bouc émissaire c'est toujours le même. Quand une société est en difficulté, le bouc émissaire c'est l'étranger, le juif, la sorcière. suffit de chasser les étrangers, de faire quelques pogroms qu'on voit revenir, de brûler quelques sorcières, et tout ira mieux. Et Hitler expliquait clairement que quand on aurait tué les juifs, les étrangers, les malades mentaux, les homosexuels, etc., les blancs aux yeux bleus auraient 1000 ans de bonheur. Des millions de gens intelligents, des millions d'Allemands cultivés étaient tellement désespérés par le traité de Versailles qui les empêchait de refaire de la société, qu'ils ont cru à ces stupidités, et vous connaissez la suite. Or, c'est exactement ce qui se passe dans tous les langages totalitaires où la foule, en extase, cesse de penser. Raymond Brasillach avait fait la rue d'Ulm, c'était pas un idiot, et il raconte comment il assiste à une réunion, je crois que c'était Doriot, un homme de gauche qui adorait Hitler, ce qu'on voit réapparaître, et cet homme de gauche, Brasillach raconte que la foule est en extase, il arrive, il monte les marches, les phares le prennent, les oriflammes claquent, les trompettes sonnent, je pleure. Il est engagé dans l'amour d'Hitler, il n'y a pas une seule idée. Il est submergé par des émotions amoureuses pour un homme qu'il ne connaît pas, mais dont la représentation le met en extase comme tous les gens de la foule. Et c'est comme ça qu'on fait des pogroms, c'est comme ça qu'on fait des foules totalitaires, c'est comme ça que les gens, les nazis, les Hutus, et beaucoup d'autres massacreurs peuvent tuer sans aucune culpabilité, puisqu'il n'y a pas d'altérité. Il n'y a pas de représentation des gens qu'ils tuent. Pourquoi voulez-vous qu'ils se sentent coupables ? Les Juifs étaient des baciles, les Hutus étaient les Tutsis étaient des scarabées, des cancrelats. C'est pas un crime d'écraser un cancrelat. Donc quand un langage totalitaire permet de telles constructions mentales, on peut devenir un immense criminel sans aucune culpabilité.
Alors, conclure cette interview passionnante que vous nous livrez, Boris Cyrulnik, par rapport à votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché », est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a des amours toxiques, pathologiques, et aussi relever que le tabou de l'inceste, le tabou de l'inceste a été est advenu pour quelles raisons, et dans les familles décomposées, recomposées, ce n'est plus la même configuration de la famille, l'enfant est plus en danger.
Mais oui, actuellement, la famille, les structures familiales sont diluées. Or, l'inceste est un interdit majeur qui fabrique des circuits sociaux et qui fabrique des interdits. Je ne peux pas tout me permettre. Et cet interdit est une structure affective qui nous permet de vivre ensemble et de faire des structures familiales et sociales. Or, quand une société est désorganisée, on ne sait plus ce qui est interdit, ou même beaucoup d'hommes et certaines femmes moins nombreuses que les hommes, et dans l'inceste, il y a quand même 16% de femmes ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. J'ai dû en accompagner plusieurs, elles ont les mêmes raisonnements que les hommes, je lui ai fait découvrir l'amour, et on me punit, on me met en prison. Quelle injustice, vous vous rendez compte? Ce raisonnement est possible quand les femmes, quand il n'y a plus de structure sociale, ou quand il n'y a plus de structure familiale. Or, j'ai eu à accompagner il n'y a pas longtemps, un garçon que j'ai suivi quand il était jeune, très jeune, il arrive à l'adolescence, il tombe amoureux d'une femme qui a déjà un enfant, ils vivent ensemble, ils ont ensemble un deuxième enfant, le couple marche bien, jusqu'au jour où ils se séparent, et mon jeune patient tombe amoureux d'une deuxième femme qui a 3 enfants de 3 pères différents. Dites-moi où est Œdipe ? Dites-moi où sont les structures de parenté. Dites-moi si un garçon, on va dire de 14-15 ans, il perçoit une cousine qui est la fille de son troisième ou quatrième beau-père. Est-ce que cette fille est interdite sexuellement ou est-ce qu'elle est possible ? Donc l'augmentation faramineuse du nombre d'incestes, Ipsos, INED, 3%, c'est incroyable, c'est énorme. Et le marqueur de la désorganisation des structures familiales et des structures sociales. Et là, on a une possibilité d'intervenir.
Alors, Monsieur Boris Cyrulnik, est-ce que vous pourriez nous donner une conclusion par rapport à cet entretien que nous avons eu relativement à ce livre « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché
ben, » La conclusion, c'est qu'il faut surtout continuer à tomber amoureux et vite, de façon à pouvoir passer, se relever attaché. Et à ce moment-là, on se structure mutuellement, on structure des familles, on structure des groupes sociaux avec des interdits qui sont des structures affectives, je ne peux pas tout me permettre, et là, on vivra beaucoup mieux que ce qui se passe actuellement, où on voit que les enfants, les adolescents qui n'ont jamais été autant respectés, qui n'ont jamais pu s'épanouir autant aussi bien qu'aujourd'hui, n'ont jamais été aussi anxieux et déprimés qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont errants. Au Moyen-Âge, on disait qu'un homme, une femme errante, c'était une forme de folie. C'est ce qui est actuellement en train de se passer, donc il faut vite réapprendre à tomber amoureux et à tisser des liens d'attachement.
Je vous remercie infiniment, Monsieur Boris Cyrulnik. Je rappelle donc que ce livre, « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché » vient de paraître aux éditions Odile Jacob et que vous êtes neuropsychiatre.
Vous m'invitez à chaque fois, je suis ravi, vous participez à mon attachement, Madame Fouchaner.
Merci, mais moi aussi. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup et très bonne journée. Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.